Chapitre 3. La colline de l'aube dorée. Au sommet d'une colline basse, à bonne distance au nord-est de Keirienne, très loin de toute route ou agglomération, un trait de lumière verticale apparut, plus grand qu'un cavalier sur son cheval. Alors que le sol descendait en pente douce dans toutes les directions, seuls quelques bosquets faisaient obstacle à la vue sur la forêt qui se dressait à près d'un quart de lieue de la crête. Tandis que le trait lumineux semblait tourner sur lui-même, sectionnant net les branches des arbustes, il commença à s'élargir, formant un grand passage en suspension dans les airs. Dès que ce portail fut stabilisé, des aïeules voilées des deux sexes en jaillirent et sécurisèrent immédiatement tout le périmètre. Presque noyés dans la masse, quatre achamans prirent position autour du portail et entreprirent de sonder les environs. Même si rien ne bougeait, à part les branches et les colonnes de poussière sous l'effet du vent, dans le lointain, on eût dit que ces guetteurs étaient des faucons en quête de lapins. Un lapin tentant de repérer un faucon aurait été aussi concentré, mais en aucun cas pareillement menaçant. Quand le portail eut fini de laisser passer des aïeules, ce fut le tour des cavaliers de Keirienne, l'étendard de la lumière se déployant au vent dès que son porteur eut franchi le passage. Sans marquer l'ombre d'une pause, Dobrein disposa ses hommes en formation à mi-chemin sur la pente, leurs lances inclinées selon le même angle, au degré près, bien entendu. Ces vétérans étaient prêts à charger dans n'importe quelle direction sur un seul geste de leur chef. Sur les talons du dernier Keirienien, Perrine fit franchir le portail à trotteur. En une seule foulée, le cheval passa des collines des Puits de Doumaï à celles qui se trouvaient aux Keiriennes. D'instinct, le jeune homme baissa la tête. Le sommet du curieux portail était bien au-dessus de son crâne, mais il avait trop souvent vu les dégâts que pouvaient faire ces ouvertures magiques pour prendre le moindre risque. Aram et Loyal, ce dernier à pied, sa longue lance sur l'épaule, jugea quand même bon de s'incliner, suivirent le mari de Feil. Puis ce furent les hommes de Rivière, prudemment penchés sur l'encolure de leur monture bien avant d'aborder le portail. Rad Aldaï portait l'étendard à la tête de loup rouge, celui de Perrine, disait-on, et Tel Lewin se chargeait de l'aigle rouge de Manéthéren. Perrine s'efforça de ne pas regarder ses drapeaux, surtout l'aigle rouge. Les hommes de Deux-Rivières voulaient tout en même temps. Selon eux, étant un seigneur, il convenait qu'il ait des étendards. Mais seigneur ou non, quand il ordonnait qu'on cache ses fichus étendards, on ne lui obéissait jamais pendant très longtemps. La tête de loup le faisait passer pour ce qu'il n'était pas et qu'il ne voulait pas être. Quant à l'aigle rouge, plus de 2000 ans après que Manéthéren eut disparu durant les guerres des Trollocs et environ un millénaire après que le royaume d'Andorre eut en partie annexé son territoire, cet étendard restait le symbole de la rébellion aux yeux de n'importe quel Andorien. Dans l'esprit de certains hommes, les légendes étaient toujours vivantes. En réalité, depuis quelques générations, les gens de Deux-Rivières n'avaient même plus conscience de l'existence d'Andorre. Mais quand une reine avait une idée en tête, elle n'en changeait pas aisément. Perrine avait rencontré la nouvelle reine d'Andorre quelque temps plus tôt, bizarrement ça lui paraissait être une éternité, dans la pierre de Théar. À l'époque, elle ne régnait pas encore, et ça resterait ainsi tant qu'elle n'aurait pas été couronnée à Kemlin. Mais Elaine semblait être une gentille jeune femme plutôt jolie, même si Perrine n'était pas particulièrement friand des blondes. Un peu éprise d'elle-même, bien sûr, comme toute fille héritière digne de ce nom, et très amoureuse de Rand, si les baisers dans les coins sombres voulaient dire quelque chose. Rand entendait lui offrir le trône du lion d'Andorre et le trône du soleil du Keirienne. Avec un peu de chance, elle lui serait assez reconnaissante pour fermer les yeux sur un étendard qui n'était en rien une agression volontaire. Alors qu'il observait ses hommes en train d'avancer sous ses étendards, Perrine secoua pensivement la tête. Quoi qu'il en soit, ce souci n'était pas d'actualité. Presque tous très jeunes, comme Todd, et fils de fermier ou de berger, les gars de Deux-Rivières ignoraient tout de la maniaque précision des militaires de carrière. Cela dit, ils savaient ce qu'ils faisaient. Un homme sur cinq prenait les rênes de 4 chevaux, dont les cavaliers venaient de sauter à terre, leur arc long déjà armé. Ces lignes d'archers sondaient elles aussi les environs, mais en avançant très lentement pour atteindre leur poste. Avec son arc presque aussi grand que lui, même une fois bandé, chacun de ces hommes pouvait tirer à une distance qui semblait incroyable à quiconque n'était pas originaire de Deux-Rivières, et en touchant régulièrement sa cible. Perrine espéra qu'il n'y aurait pas besoin de se battre en ce jour. Parfois, il rêvait d'un monde où les batailles n'existeraient pas. Mais il se souvint de sa conversation avec Rand, un peu plus tôt.
« Tu crois que mes ennemis ont fait la sieste pendant que je n'étais pas là ?»
demanda Rand, tandis qu'il regardait Dashiva ouvrir le portail. Le dragon réincarné portait une veste de laine verte récupérée dans un chariot.
un vêtement bien coupé, mais sans rapport avec ceux qu'il avait désormais l'habitude de mettre. Sauf à dépouiller un champion de sa veste ou un aïel de son cadinsor, c'était tout ce qu'on avait trouvé qui fut susceptible de lui convenir. Mais à la façon dont il avait fait fouiller les chariots, on aurait cru qu'il tenait absolument à la soie et aux broderies. Les véhicules étaient alignés, attelages harnachés et bâches et arceaux repliés. En compagnie des autres sœurs loyales, Kiruna se trouvait dans le premier véhicule, et elle ne semblait pas ravie. Dès qu'elles avaient compris que ça ne les mènerait à rien, les Aes Sedai avaient cessé de protester, mais elles continuaient à marmonner entre elles. Au moins, elles avaient consenti à voyager. Leur champion entourait le chariot, silencieux et impassible, tandis que les sœurs prisonnières, serrées les unes contre les autres, restaient sous la surveillance de toutes les matriarches qui n'étaient pas avec Rand, à savoir toutes, à l'exception d'Amis et de Soriléa. À une centaine de pas de là, prêts à tout malgré leurs blessures, leur champion veillait sur elles, sous le regard attentif de guerriers Aiel. À part le cheval noir de Kiruna, dont Rand tenait les rênes, et la jument gris-souris réquisitionnée pour mine, toutes les montures des Aes Sedai et des champions qui n'avaient pas été affectés aux achamans ou ajoutés aux attelages, une décision qui avait soulevé plus d'indignation que celle de faire marcher leur propriétaire, étaient attachées par des longes à l'arrière des chariots.
« C'est ce que tu crois, Flynn ? Et toi, Grady ?»
Un des achamans qui attendait de franchir le portail, un type râblé au visage de paysan, regarda Rand, hésitant, puis tourna les yeux vers son compagnon, un vieil homme tout parcheminé et boiteux. Tous deux portaient une épée d'argent sur le col, mais pas de dragon.
« Seigneur dragon, seul un imbécile croit que ses ennemis restent les bras ballants pendant qu'il est absent. »
Un ton bourru de bon soldat.
« Ton opinion, Tashiva ?»
Le chef des gardes d'honneur sursauta, surpris qu'on s'adresse à lui.
« J'ai grandi dans une ferme. »
Il remit droit son ceinturon d'armes, qu'il l'était déjà. En principe, les achamans s'entraînaient autant à manier l'épée qu'à canaliser le pouvoir. Mais ce gaillard semblait à peine capable de distinguer la poignée de la lame.
« Je ne suis guère habitué à avoir des ennemis. »
Malgré sa maladresse, il parvenait à paraître arrogant. Mais ça semblait une constante chez les hommes de Taïm.
« Si tu restes avec moi, ça changera très vite. »
Le sourire de Rand fit frissonner Perrine. En donnant l'ordre de franchir le portail, il sourit de plus belle, comme si la colonne allait être attaquée de l'autre côté.
« Il y a des ennemis partout, ne l'oubliez pas. Ils sont innombrables, et on ne peut pas les distinguer de nos alliés. »
Le voyage continua à un rythme soutenu. Les chariots passèrent des puits de Doumaï aux environs de Kairien, les sœurs massées dans le premier ressemblant à des statues de glace secouées sans ménagement par des porteurs indélicats. La main sur le pommeau de leur épée, les yeux toujours en mouvement, les champions couraient à côté du véhicule. À l'évidence, ils pensaient que leurs Aes Sedai devaient être protégés au moins autant de leurs alliés que d'une éventuelle embuscade, de l'autre côté. Les matriarches se comportaient comme si elles étaient chargées de faire avancer un troupeau d'oies. Quelques-unes utilisaient d'ailleurs des bâtons pour aiguillonner les sœurs, qui faisaient bien sûr mine de ne s'apercevoir de rien, comme s'il n'y avait eu ni matriarche ni aiguillon. Les Gaishain Shaido suivaient en colonne par quatre, sous l'œil presque distrait d'une seule promise. D'ailleurs, elle leur désigna un endroit, sur le côté de la colonne, puis alla rejoindre les autres Fardaris Mai. Toujours nus, aussi fiers que des aigles, les Gaishain s'agenouillèrent docilement. Les champions des sœurs prisonnières passèrent ensuite, sous bonne garde, leur odeur trahissant toujours une colère potentiellement dévastatrice. Rouark les suivait avec les six Soyaman et les Promises, plus quatre autres Achaman, chacun tenant par la bride un cheval de rechange pour les quatre qui se trouvaient loin devant eux. Nourel à leur tête, les gardes ailés fermaient la marche. Très fiers d'avoir cet honneur, ils plaisantaient entre eux, se moquant des Kairieniens en décrivant comment ils allaient réduire les Shaido en bouillie s'ils s'avisaient de revenir. En réalité, cependant, ils ne formaient pas l'arrière-garde. Car c'était Rand, monté sur le hongre de Kiruna, et Min, perché sur sa jument, qui traversèrent en dernier. Soriléa et Amis marchaient sur un flanc du fier cheval noir, Nandera et une demi-douzaine de promises avançant sur l'autre. Tenant par la bride un cheval bête et plus placide, Dashiva collait à la croupe de la monture de Rand. Quand tout le monde fut de l'autre côté, le portail disparut. Et la chamane, avec un petit sourire, resta un moment à regarder l'endroit où il s'était découpé dans les airs. Puis il se hissa péniblement en selle et marmonna dans sa barbe. Sans doute parce qu'il s'était pris les jambes dans son épée, manquant se casser la figure. Car enfin, il ne pouvait pas être déjà devenu cinglé. Une armée avait pris place sur la colline, prête à repousser une attaque qui semblait bien ne jamais devoir venir. Une petite armée, quelques milliers d'hommes seulement, mais qui aurait paru impressionnante avant que les centaines de milliers d'Aiel traversent le mur du dragon et modifient radicalement les critères.
guidant son hongre vers Perrine, Rand approchait en sondant le périmètre. Sans le quitter des yeux, mais en chuchotant entre elles, les deux matriarches le suivaient de près. Nandera et les promises marchaient sur leurs talons, attentives à tout ce qu'il y avait autour d'elles. Si Rand avait été un loup, Perrine aurait dit qu'il humait l'air. Le sceptre du dragon reposait en travers de sa selle, et il le touchait du bout des doigts de temps en temps, comme pour se souvenir de son existence. Quand il s'immobilisa devant Perrine, le dragon réincarné le scruta avec autant d'attention que le paysage, l'instant d'avant.
« J'ai confiance en toi, »
dit-il en hochant la tête. Voyant que Mine s'agitait nerveusement sur sa selle, il ajouta.
« Et en toi aussi, bien sûr. Pareil pour toi, Loyal. »
Mal à l'aise, l'augier jeta un regard furtif à Perrine. Balayant du regard la colline où se tenaient les aïels, les achamans et tous les autres, Rand soupira.
« Il y a si peu de gens à qui je peux me fier. »
Son odeur aurait amplement suffi pour deux hommes. Un mélange de colère, de peur, de détermination et de désespoir. Le tout baigné par une formidable fatigue.
« Reste sain d'esprit, »
aurait voulu dire Perrine.
« Accroche-toi !»
Mais la culpabilité lui colla la langue au palais. Ce n'était pas à son ami d'enfance qu'il adressait ces mots, mais au dragon réincarné, parce qu'il était l'espoir de l'humanité. Il désirait que son ami ne devienne pas fou, mais il fallait que le dragon réincarné ne perde pas la raison.
« Seigneur dragon !»
appela soudain un des achamans. À peine sorti de l'adolescence, il avait de grands yeux noirs que n'aurait pas renié la plus exigeante des filles. Sans épée ni dragon sur le col, il était pourtant aussi fier que les autres hommes de Taïm. Perrine avait cru entendre qu'il se nommait Narishma.
« Seigneur dragon, au sud-ouest !»
Une silhouette venait de jaillir des arbres à un peu plus d'un quart de lieue. Une femme, la jupe relevée sur les cuisses pour mieux courir. Une aïelle vit presque aussitôt Perrine. Une matriarche, plus précisément, même si rien ne permettait de le dire de si loin. Il l'aurait juré, voilà tout. Cette vision réveilla sa nervosité. Quelqu'un sortant de la forêt, alors qu'ils venaient eux-mêmes d'émerger du portail? Voilà qui n'augurait rien de bon. Au moment où ils s'étaient mis en route pour sauver Rand, les Shaido menaçaient de nouveau Kérienne. Mais pour les Aiel, une matriarche restait une matriarche, quelle que soit son appartenance. Pendant que leurs tribus s'entretuaient, ces femmes se rendaient visite, comme des voisines qui partagent une infusion en bavardant. Pareillement, deux guerriers en train de s'entr'égorger se seraient poliment écartés l'un de l'autre pour qu'une matriarche puisse passer entre eux paisiblement. Non, les nouvelles ne pouvaient pas être bonnes. Sur la colline, tout le monde partageait ce sentiment. Partout, des lances se dressèrent et des cordes d'arc se tendirent. Les gardes ailés et les kérieniens se raidirent sur leurs selles, et Aram, les yeux brillants d'anticipation, tira au clair son épée. Loyal s'appuya à sa hache géante et tapota nerveusement le tranchant, qui ressemblait à celui d'une hache de bûcheron, mais était orné de gravures incrustées d'or, représentant des feuilles et des volutes. Le damasquinage avait souffert du récent usage intensif de l'arme. Si Loyal devait se battre de nouveau, il ne se déroberait pas. Mais il n'en avait pas plus envie que Perrine. Et pour les mêmes raisons, en gros. Immobile sur sa selle, Rand suivit la progression de la lointaine silhouette. Mine entreprit de flatter l'encolure de sa jument pour la calmer, un peu comme on apaise un molosse au poil hérissé. Sans trahir d'inquiétude, les matriarches ne restèrent pas les bras ballants. Sur un geste de Soriléa, une dizaine de femmes, parmi celles qui gardaient les prisonnières, rompirent les rangs et vinrent marcher avec la doyenne et Amis à bonne distance de Rand, et trop loin de Perrine pour qu'ils puissent entendre quoi que ce soit. Dans ce groupe, très peu de matriarches avaient des cheveux grisonnants, et aucune n'arborait les rides de Soriléa. Mais les cheveux gris, à vrai dire, n'étaient pas si fréquents que ça chez les matriarches. Sans doute parce que très peu d'Aiel, tous sexes confondus, vivaient assez longtemps pour avoir des tempes argentées. Pourtant, malgré leur relative jeunesse, ces femmes avaient dans leur société une position élevée, ou plutôt une influence très forte, ce qui revenait à peu près au même. Perrine avait déjà vu Soriléa et Amis converser avec ce groupe. Converser était d'ailleurs un bien grand mot, car Soriléa tenait en permanence le crachoir, Amis hasardant de temps en temps quelques mots, et toutes les autres écoutaient. Cette fois, Edara sembla vouloir protester, mais Soriléa l'en dissuada sans même ralentir le pas, puis elle désigna deux femmes, Sotarine et Kossein, qui relevèrent aussitôt leurs jupes et coururent en direction de la silhouette solitaire. Perrine tapota l'encolure de trotteur. Non, il n'y aurait pas de nouvelles tueries. Pour l'instant, en tout cas. Les trois matriarches firent la jonction à moins de 400 pas de la colline. S'arrêtant un instant, elles échangèrent quelques mots, puis repartirent au pas de course en direction de Soriléa. Quand elles l'eurent rejointe, La nouvelle venue, une jeune femme au long nez et à la flamboyante crinière rousse, débita à toute vitesse son rapport. Se rembrunissant de seconde en seconde, Soriléa finit par lui faire signe de se taire, puis le groupe entier de matriarches se tourna vers Rand, sans faire mine d'en approcher cependant. Aussi imperturbables que des Aes Sedai, elles attendirent, les bras croisés.
« Tu parles d'un Karakarn ?» marmonna Rand entre ses dents.
Il se laissa glisser à terre, puis aida Mine à descendre de selle. Perrine imita ses deux amis et se dirigea vers les matriarches en tenant Trotteur par la bride. Loyal suivit le mouvement, et Aram aussi, sans mettre pied à terre, du moins jusqu'à ce que Perrine ne lui ordonne d'un geste. Sauf quand c'était une affaire de vie ou de mort, les Aiel ne pratiquaient pas l'équitation. Du coup, ils jugeaient discourtois qu'on vienne à leur rencontre à dos de cheval. Rouark se dirigea aussi vers les matriarches, tout comme Gaul, qui affichait un air sinistre pour une raison qu'il était seul à connaître. Nandera, Souline et les six promises vinrent également rejoindre Soriléa. Dès que Rand fut à portée d'oreille, la rousse flamboyante reprit son compte-rendu.
« Beir et Megana ont fait poster des sentinelles sur toutes les routes que tu aurais pu emprunter pour regagner la ville des tueurs d'arbres, Karakarn. Mais pour tout dire, personne n'imaginait que...
« Féréguin !»
lança Soriléa. La rousse se tut, comme pétrifiée, et regarda fixement Rand, sans doute pour éviter de croiser le regard de feu de la doyenne. Abandonnant sa proie, Soriléa se tourna vers Rand.
« Il y a de grandes inquiétudes dans le camp des Aiel, »
dit-elle.
« Des rumeurs circulent parmi les tueurs d'arbres. On raconte que tu es allé à la Tour Blanche avec les sœurs de la délégation, décidé à te prosterner devant la chair d'Amerline. Parmi ceux qui connaissent la vérité, aucun n'a parlé. Une bonne initiative, car ça n'aurait fait qu'aggraver les choses.
« Et où en sommes-nous, à présent ?»
demanda Rand, apparemment très calme. En réalité, il était tendu à craquer. Mine recommença à lui masser les épaules. La preuve, s'il en fallait une.
« Beaucoup d'Aiel pensent que tu les as abandonnés, »
dit Amys très calme.
« La sidération frappe de nouveau. Chaque jour, 1000 Aiel jettent leurs lances et s'enfuient, incapables d'affronter notre futur et notre passé. Certains rejoignent peut-être les Shaido. »
Un profond dégoût fit trembler la voix de la matriarche.
« Certains ont murmuré que le vrai Karakarn ne se serait pas livré volontairement aux Aes Sedai. Selon Indirian, tu n'as pas pu aller de ton plein gré à la Tour Blanche. Il est prêt à conduire les Kodara au nord, jusqu'à Tarvalon, afin de danser avec les lances contre toutes les Aes Sedai qu'il trouvera, ou tout habitant des terres mouillées. Il est sûr que tu as été trahi. Timolan, lui, est d'avis, si les récits sont vrais, que c'est toi qui nous as trahis. Dans ce cas, il ramènera les Miagoma dans notre désert, après avoir vu ton cadavre. Mandelaine et John Wynne tiennent conseil, mais ils ne savent pas vers qui se pencher. Timolan ou Indirian.
Rouark fit la grimace et inspira entre ses dents serrées. Pour un Aiel, ça revenait à s'arracher les cheveux de désespoir.
« Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, »
dit Perrine.
« Mais tu les présentes comme une sentence de mort. Dès que Rand se sera remontré, tout ça s'arrêtera. »«
Si c'était si simple, »
dit Rand en se passant une main dans les cheveux.
« Soriléa n'aurait pas l'air d'avoir avalé un lézard. »
Dans cet ordre d'idées, Souline et Nandera, elles, paraissaient avoir avalé un lézard toujours vivant tandis qu'ils dévalaient leur oesophage.
« Que me caches-tu, Soriléa ?»
La matriarche eut l'ombre d'un sourire.
« Tu entends ce qui n'est pas dit. C'est très bien. Tu reviens avec des Aes Sedai. Des Aiel penseront que tu t'es bel et bien prosterné à Tarvalon. Quoi que tu dises ou que tu fasses, ils seront convaincus que tu portes le joug de la chair d'Amerline. Et ce, avant de savoir que tu étais prisonnier. Les secrets s'infiltrent par des interstices que ne traverserait pas une puce. Et quand ils sont connus de trop de gens, ils leur poussent des ailes. »
Perrine jeta un coup d'œil à Dobraine et à Nourel, qui suivaient la scène avec leurs hommes, et il eut un frisson glacé. Combien de partisans du dragon réincarné le suivaient parce qu'il avait derrière lui la puissance des Aiel? Pas tous, bien sûr. Mais pour chaque homme qui s'était rallié à une cause, 5, peut-être 10, avaient tout simplement choisi le camp du plus fort. Si les Aiel se débandaient ou se séparaient. Perrine refusa d'envisager cette possibilité. Défendre deux rivières avait développé ses aptitudes au maximum, et peut-être même au-delà de ses limites. Taveraine ou non, il n'imaginait pas être un de ces hommes qui restent dans l'histoire et dans les récits. Ce destin-là était pour Rand. Lui, il en restait à des problèmes circonscrits à l'échelle d'un village. Pourtant, il ne pouvait pas s'empêcher de spéculer. Si le pire arrivait, que faudrait-il faire ? Dans sa tête, il vit défiler la liste des gens qui resteraient loyaux et de ceux qui tenteraient de se défiler. La première fut assez courte,
et la seconde assez longue pour qu'il en ait la bouche sèche. Trop de gens poursuivaient encore leurs intérêts personnels, comme s'ils n'avaient jamais entendu parler des prophéties du dragon et de l'ultime bataille. Les pires d'entre eux, il n'en doutait pas, continueraient même après le début de Tarmon Kaidon. Le plus grave, c'était qu'il ne s'agirait pas de suppôts des ténèbres, mais simplement d'égoïstes à la vue trop courte. Les oreilles en berne, Loyal devait se tenir le même raisonnement. Dès qu'elle eut fini de s'adresser à Rand, Soriléa tourna la tête pour foudroyer du regard Kiruna, Béra et Alana qui approchaient du groupe.
« On vous a dit de rester dans le chariot !»
Kiruna et Béra s'arrêtèrent si brusquement qu'Alana faillit les percuter.
« On vous a ordonné de ne pas utiliser le pouvoir sans autorisation. Mais vous avez quand même espionné ce que nous disions. Vous allez découvrir que je ne menace jamais en l'air. »
Béra et Kiruna avec une dignité glaciale, Alana avec un air de défi, les trois sœurs ne firent pas mine de reculer. Loyal posa sur elle ses grands yeux écarquillés, puis il les braqua sur les matriarches. Ses oreilles, déjà en berne, parurent se ratatiner, et ses longs sourcils pendirent sur ses joues. Tout en révisant mentalement ses listes, Perrine se demanda jusqu'où les Aes Sedai comptaient aller. Espionner avec le pouvoir. Les matriarches risquaient de réagir plus violemment encore que le laissait entendre Soriléa. Et Rand, lui... Pas cette fois, semblait-il. Les yeux rivés sur Soriléa, il ne paraissait pas s'être aperçu de la présence des sœurs. Ou écoutait-il une nouvelle fois quelque chose qu'il était le seul à pouvoir entendre?
Et les habitants de Terre Mouillée? Kola Vere a été couronnée, c'est ça?
Il ne s'agissait pas vraiment d'une question. Soriléa acquiesça, sans détourner une fraction de seconde son attention des Aes Sedai. Les Aiel se fichaient des histoires de rois et de reines des Terres Mouillées, en particulier quand il s'agissait des Kyrieniens, ces tueurs d'arbres. Perrine eut un nouveau frisson glacé. Tout le monde savait que Kola Vere de la maison Saigan avait des vues sur le trône du soleil. Elle complotait depuis le jour où Galdrian Riatin avait été assassiné, avant même que Rand se soit proclamé dragon réincarné. Après avoir découvert qu'il destinait la couronne à Elaine, elle n'avait pas baissé les bras. Ça aussi, c'était de notoriété publique. En revanche, peu de gens la savaient capable de tuer de sang-froid. Dire que Fail était à Kaerien. Au moins, elle ne serait pas seule. En cas de danger, Bane et Shiad la protégeraient. Ces deux promises étaient ses amies, voire ce que les Aiel appelaient ses presque sœurs. Elle ne l'abandonnerait pas. Le frisson glacé ne se dissipa pas pour autant. Kola Vere haïssait Rand et tous ses proches, comme la femme d'un de ses amis, par exemple. Mais Bane et Shiad veilleraient au grain.
C'est une situation délicate,
dit Kiruna en approchant de Rand. Bien qu'elle fût très frêle, les yeux de Soriléa semblaient capables de briser quelqu'un en deux. Prudente, Aes Sedai fit un large détour pour la contourner.
« Quoi que tu fasses, ça aura de sérieuses conséquences. Je... »«
Que dit Kola Vere de moi ?» demanda Rand à Soriléa. « A-t-elle fait du mal à Berelaine ?»
Berelaine, la première dame de Mayenne, à qui Rand avait en quelque sorte confié la régence. Mais pourquoi ne s'inquiétait-il pas du devenir de Fail ?
« Berelaine sur Pine Drag va bien, »
répondit Soriléa, sondant toujours les Aes Sedai. Bien qu'on l'eût ignoré et interrompu, Kiruna affichait sa sérénité coutumière. Mais son regard, s'il avait été du feu, aurait carbonisé Rand sur place. Soriléa fit signe à Ferreygin de prendre le relais. La rousse sursauta et se racla la gorge. À coup sûr, elle ne s'attendait plus à devoir parler. En un clin d'œil, elle se drapa dans toute sa dignité.
« Karakarn, Kola Vere Seigan dit que tu es parti pour Kaemlyn. Ou peut-être pour Théar. Où que ce soit, précise-t-elle, chacun doit se souvenir que tu es le dragon réincarné et qu'il convient de t'obéir. »
Ferreygin eut une grimace. Le dragon réincarné ne faisait pas partie des prophéties des Aiel. Pour eux, seul le Karakarn comptait.
« Elle dit que tu reviendras et que tu confirmeras son accession au trône. Parlant souvent au chef, elle les encourage à déplacer nos guerriers vers le sud. Pour t'obéir, affirme-t-elle. Elle ne ferait pas avec les matriarches. De toute façon, ce que nous disons entre dans une de ses oreilles pour ressortir par l'autre. »
Cette fois, Ferreygin eut un soupir méprisant que n'aurait pas renié Soriléa. Nul ne pouvait dicter leurs actes aux chefs de tribu, mais s'attirer les mauvaises grâces des matriarches était la pire façon d'essayer. Tout ça parut cependant logique à la part de Perrine capable de ne pas penser à Fail. Selon toute probabilité, Kola Vere ne s'était jamais assez intéressée aux sauvages pour comprendre qu'elle n'était pas de simple guérisseuse. mais elle voulait vraiment que tous les Aiel quittent le Kaerien. Dans les circonstances présentes, une question s'imposait. Certains chefs l'avaient-ils écouté? Rand ne commença pas par le plus évident, comme toujours.
« Que s'est-il passé d'autre en ville? Qu'as-tu entendu dire, Ferengin? Même si ça te semble quelque chose qui ne pourrait intéresser qu'un habitant de Terre Mouillée. »
La rousse rejeta en arrière sa crinière et eut un rictus.
« Les gens des Terres Mouillées sont comme des mouches des sables, Karakarn. Qui peut savoir ce qui les intéresse? D'étranges choses se sont produites en ville, paraît-il, et également dans notre camp. Et les gens voient des choses qui ne peuvent pas être, et qui existent pourtant, au moins pendant un temps. Des hommes, des femmes et des enfants sont morts. »
Perrine en eut la chair de poule. L'Aiel parlait de ce que Rand appelait des bulles maléfiques. Montant de la prison du Ténébreux comme d'un marécage, elle dérivait dans la trame, puis explosait sans crier gare. Ayant été piégée une fois par une de ces bulles, Perrine espérait qu'il n'en reverrait plus jamais d'autres.
« Si tu veux savoir ce que font les gens de Terre Mouillée, » continua Ferengin, « qui a le temps d'observer des mouches, jusqu'à ce qu'elles piquent ? Ça me fait penser à une anecdote. Je ne la comprends pas très bien, mais toi, Karakarn, tu saisiras peut-être. Ces mouches des sables piqueront tôt ou tard. »
« Des mouches ? Des habitants des Terres Mouillées ? De quoi parles-tu exactement ?» Même si elle n'arrivait pas à la cheville de Soriléa en matière de regard glacial, Ferengin, comme toutes les matriarches, détestait qu'on la bouscule, y compris quand il s'agissait du chef de tous les chefs. Pointant le menton, elle tira sur sa jupe et répondit.
« Il y a 3 jours, les tueurs d'arbres Thoram Riatin et Caraline Damodred se sont approchés de la capitale. Ils ont fait lire une proclamation selon laquelle Kolavere Saigan est une usurpatrice. Depuis, tous deux restent dans leur camp, au sud de la ville, ne faisant rien à part y envoyer des gens à eux de temps en temps. Dès qu'ils sortent de leur camp, un seul guerrier, voire un Gaishain, suffit à faire fuir 100 de ses poltrons. Mais un homme nommé Darlin Cisnera et d'autres Théariens sont arrivés hier par bateau, et ils se sont joints aux 2 autres. Depuis, ils s'empiffrent et ils boivent, comme s'ils fêtaient quelque chose. Sur ordre de Kolavere Saigan, des soldats tueurs d'arbres se massent dans la cité, mais ils surveillent notre camp davantage que les autres hommes des Terres Mouillées, ou que la ville elle-même. Ils surveillent et ne font rien. Karakarn, tu connais peut-être le pourquoi de tout ça, mais moi non. Beir, Megana et les autres matriarches ne sont pas plus avancés.
La dame Caraline et le seigneur Thoram étaient à la tête des Kaerieniens entêtés à refuser la réalité, à savoir que Rand avait conquis leur pays. En Théar, le haut seigneur Darlin dirigeait leurs homologues. Aucune de ces rébellions n'avait une grande importance. Pendant des mois, Caraline et Thoram s'étaient tapis dans les contreforts de la colonne vertébrale du monde, lançant des menaces et des proclamations. Darlin avait joué au même petit jeu en Adon Myrk, mais il avait cessé, semblait-il. D'instinct, Perrine passa délicatement un pouce sur le tranchant de sa hache. Les Aiel risquaient d'abandonner Rand, et certains de ses ennemis se regroupaient. Que les rejetés se montrent soudain, et ce serait complet. Non, il restait encore Sevana et ses Shaido. Voilà qui serait la cerise sur le gâteau. Pourtant, rien de tout ça n'était plus important que savoir si quelqu'un avait vu en ville un cauchemar ambulant. Il fallait que Fael soit en sécurité. Oui, il le fallait. « Mieux vaut observer que combattre », murmura Rand, une fois de plus concentré sur une voix qu'il était seul à entendre. Perrine aurait signé des deux mains cette déclaration. Tout valait mieux que se battre. Mais quand on en venait à leurs ennemis, les Aiel ne voyaient pas la chose du même œil. De Rouark à Soriléa, en passant par Ferengin, Nandera et Sulin, ils foudroyaient tous Rand du regard, comme s'ils venaient de dire que le sable était meilleur à boire que l'eau. Ferengin se dressa quasiment sur la pointe des pieds. Pour une Aiel, elle n'était pas particulièrement grande. À peine arrivait-elle à l'épaule de Rand, mais elle réussit à paraître capable de se hisser à sa hauteur.
« Dans le camp, au sud de la cité, il y a un peu moins de 10 000 soldats, et ils sont encore moins nombreux en ville. Nous en débarrasser sera facile. Indirian lui-même se souvient que tu as interdit qu'on tue des gens de Terre Mouillée, sauf en cas de légitime défense. Mais si on les laisse faire, cela provoqueront des problèmes. La présence d'Aes Sedai à Kyrienne n'arrange rien. Qui sait ce qu'elles peuvent ? Des Aes Sedai ? »
répéta Rand, ses phalanges blanchissant sur la hampe du sceptre du dragon.
« Combien ?»
Captant l'odeur de son ami, Perrine frissonna. Soudain, il sentit que les sœurs prisonnières observaient la scène, ainsi que Kiruna, Béra et les autres. Soriléa se détourna de Kiruna, plaqua les poings sur ses hanches et siffla.
« Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça ? Tu ne m'en as pas laissé l'occasion !»
se défendit Ferengin, le souffle un peu court. Mais ses yeux bleus se posèrent sur Rand, et elle regagna de l'assurance.
« Une 10aine de sœurs, Karakarn. Peut-être plus. Bien entendu, nous les évitons. Surtout depuis que... »
Elle se tourna vers Sorilea et respira de nouveau un peu mal.
« Tu ne voulais rien savoir au sujet des gens de Tarmouillé. Seul notre camp t'intéressait. Tu l'as dit. »
Retour face à Rand, le dos bien droit.
« La plupart des sœurs résident chez Arilin Doulain, Karakarn, et elles ne sortent pratiquement jamais. »
De nouveau Sorilea, les épaules humblement voûtées.
« Tu sais bien que je t'aurais tout dit, mais tu m'as interrompu. »
S'avisant du nombre de témoins de cette scène et de leur amusement naissant, au moins parmi les matriarches, Feraïgin écarquilla les yeux et s'empourpra. Sa tête oscillant entre Rand et Sorilea, elle essaya de parler, mais pas un son ne sortit de ses lèvres. Quelques matriarches éclatèrent de rire, une main pudiquement levée devant la bouche. Et Dara ne crut pas bon faire preuve de discrétion. Rouark, lui, rugit de rire. Perrine ne partagea pas l'hilarité des Aiel. Un de ses fichus fils du désert aurait encore été capable de trouver drôle qu'on lui enfonce une épée dans le torse. Des Aes Sedai en plus de tout. Pas la lumière. Il était temps de passer à l'essentiel.
« Feraïgin, mon épouse, Feil, elle va bien ?»
L'Aiel tourna vers le jeune homme un regard perdu, puis elle réussit à se draper dans les lambeaux de sa dignité.
« Je crois que Feil Aibara se porte comme un charme, Seikar, »
dit-elle d'un ton assuré. « Enfin, presque. » Et tout en glissant un regard à la dérobée à Sorilea. La doyenne des matriarches n'était pas amusée, très loin de là. Les bras croisés, elle foudroya Feraïgin du regard. En comparaison, on eût presque pu dire qu'elle avait caressé Kirona des yeux un peu plus tôt. Amis posa une main sur le bras de Sorilea.
« Elle n'a rien fait de mal, »
souffla-t-elle, juste assez fort pour que la doyenne l'entende. Et Perrine aussi, bien sûr. Après une brève hésitation, Sorilea hocha la tête. Dans ses yeux, la fureur céda la place à son acrimonie coutumière. Amis était la seule personne capable d'agir ainsi avec son aînée. La seule que Sorilea ne piétinait pas sauvagement quand elle s'opposait à elle. Pour tout dire, elle ne piétinait pas non plus Rouark. Mais dans ce cas, tout se résumait à un rocher ignorant un orage. Amis, elle, était capable de ramener le beau temps. Perrine aurait voulu en entendre plus de Feraïgin. Elle croyait que Feil allait bien? Mais Kiruna s'immissa dans la conversation avant qu'il ait pu ouvrir la bouche. Toujours ce tact exquis.
« Maintenant, écoute-moi attentivement, »
dit-elle, tout en gesticulant devant le nez de Rand.
« J'ai dit que la situation est délicate. C'est faux. Elle est complexe, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Et si tendue qu'un simple souffle peut la briser. Béra et moi, nous t'accompagnerons en ville. Oui, Alana, tu pourras venir aussi. »
D'un geste agacé, Kiruna fit signe à la mince à Aes Sedai de ne pas s'en mêler. Perrine vit qu'elle recourait à ce truc qui faisait passer les femmes pour des géantes. Alors que Rand la dominait très nettement, elle réussissait à donner l'impression de baisser les yeux sur lui.
« Tu dois nous laisser te guider. Un mot ou un geste de trop, et le Kairien connaîtra le désastre que tu as déjà provoqué au Tarabon et en Arad-Doman. Pire encore, tu peux faire des dégâts irréparables dans des domaines dont tu ne sais presque rien. »
Perrine fit la moue. Pour énerver Rand, rien de mieux que ce genre de discours. Pourtant, il attendit que Kiruna ait terminé, puis se tourna vers Sorilea.
Fais conduire toutes tes Aes Sedai dans votre camp, sans exception. Assure-toi que tout le monde sache que ce sont des sœurs. Il doit être de notoriété publique qu'elles sautent quand n'importe quel matriarche dit le mot crapaud. Sachant que les matriarches sautent quand c'est le Karakarn qui le dit, ça devrait convaincre les gens que je ne suis pas le pantin des sœurs.
Sorilea eut un sourire pincé. Kiruna rougit jusqu'à la racine des cheveux. Indisposée par l'odeur de son indignation, Perrine dut se gratter le nez. Béra tenta de calmer sa collègue, sans grand succès, tout en gratifiant Rand d'un regard méprisant. Quel jeune rustre! Et Alana serra les dents pour ne pas éclater de rire. Pourtant, si on se fiait aux odeurs montantes de Sorilea et des autres matriarches, elle n'avait aucune raison de se réjouir.
« Peut-être, Karakarn, » dit sèchement Sorilea. « En tout cas, je l'espère. »
De la pure hypocrisie, et sans même parvenir à sembler convaincu. Secouant la tête, Rand partit avec mine, les promises sur les talons. Par-dessus son épaule, il donna des ordres, indiquant qui devait venir avec lui et qui accompagnerait les matriarches. Rouark lança des consignes aux guerriers. Comme Alana, Sorilea et ses compagnes regardèrent le Karakarn s'éloigner, et leur odeur trahissait une grande irritation. Perrine se demanda ce qui se passait, puis il s'avisa que Feraïgin se tenait à l'écart. Le moment ou jamais. Mais quand il tenta de rejoindre la rousse, Sorilea, Amis et les autres matriarches lui barrèrent le chemin, manquant le bousculer pour qu'il déguerpisse. Elles s'éloignèrent ensuite avec leur proie, puis la bombardèrent de questions. Gardant un œil sur Kiruna et les deux autres sœurs, elles leur firent comprendre que toute tentative d'espionnage serait durement réprimée.
Fulminant au point qu'on puisse s'étonner que ses cheveux ne soient pas hérissés sur son crâne, Kiruna semblait tenter de braver cet interdit. Du discours que lui tenait Béra, très ferme, Perrine capta quelques mots tels que « raisonnable »,« patiente »,« prudente » et « idiote ». Savoir lequel s'appliquait à qui était une autre affaire.
« Quand nous serons en ville, » dit Aram, « il y aura des combats. »
Et ça semblait le réjouir.
« Bien sûr que non, »
lança Loyal. Les oreilles frémissantes, il baissa les yeux sur sa hache.
« Il n'y en aura pas, hein, Perrine ?»
Perrine secoua la tête. Il n'en savait rien. Quand les matriarches allaient-elles lâcher Féréguine ? Bon sang, qu'avait-elle donc de si important à lui dire ?
« Les femmes, » grommela Gaul, « sont plus étranges qu'une bande de types d'étermouillés ivres-morts. »«
Pardon ?»
souffla Perrine. Que se passerait-il s'il fendait tout simplement le cercle de matriarches ? Comme si elle avait lu ses pensées, Edara fronça les sourcils à son intention. D'autres aïels l'imitèrent. Parfois, on aurait juré que les femmes étaient bel et bien télépathes. Eh bien,
Perrine Aibara, les femmes sont étranges. Voilà ce que je viens de dire. Chiad m'a annoncé qu'elle ne déposerait pas une couronne nuptiale à mes pieds. Ce sont ses propres mots.
Gaul semblait scandalisé.
Elle m'a dit qu'elle me prendrait pour amant, et que Bane le ferait aussi, mais rien de plus.
Dans d'autres circonstances, tout ça aurait choqué Perrine, même s'il avait déjà entendu des choses de ce genre. Sur ces sujets, les aïels étaient incroyablement libres.
Comme si je ne pouvais pas faire un bon mari. Je n'apprécie pas Bane, mais je serais prêt à l'épouser pour rendre Chiad heureuse. D'ailleurs, si elle ne veut pas faire une couronne nuptiale, elle devrait cesser de m'aguicher. Oui, si je ne l'intéresse pas assez pour qu'elle m'épouse, qu'elle me fiche la paix.
Perrine regarda l'aïel aux yeux verts, un gaillard plus grand que Rand et presque autant que lui.
De quoi parles-tu ?
De Chiad ! Tu n'écoutais pas ? Elle m'évite, mais chaque fois qu'on se croise, elle s'arrête assez longtemps pour être sûre que je l'ai vue. Je ne sais rien de vos façons de faire dans les terres mouillées. Mais chez nous, c'est une des tactiques féminines. Quand on s'y attend le moins, la séductrice apparaît, puis elle se volatilise.
« Tu veux dire qu'elle est ici ?»
demanda Perrine, les sangs glacés.
« Et Bane aussi ?»
Elle ne se quitte presque jamais. Cela dit, c'est Chiad qui m'intéresse, pas Bane.
« Que la lumière brûle vos petits jeux !»
explosa Perrine. Les matriarches tournèrent la tête pour le regarder. En fait, sur toute la colline, des gens furent intrigués par son éclat. Kiruna et Béra le dévisageant pensivement. Non sans effort, il réussit à baisser le ton, mais sans pour autant parler plus calmement.
« Chiad et Bane étaient censés protéger Fayle. Elle est en ville, au palais, avec Colavere. Avec Colavere, bon sang. Et ses femmes devaient veiller sur elle. »
Gaul se tourna vers Loyal et se gratta la tête.
« C'est de l'humour des terres mouillées. Fayle Aibara n'est plus une gamine dans les jupes de sa mère. »
« Je sais ça !»
s'écria Perrine. Pour se calmer, il prit une grande inspiration. Quand un acide vous rongeait l'estomac, parler sereinement n'était pas facile.
« Loyal, veux-tu expliquer à ce... à Gaul que nos femmes ne se promènent pas avec des lances ? Colavere ne défiera pas Fayle en duel. Elle ordonnera à quelqu'un de l'égorger, de la précipiter du haut des remparts, ou de... »
Des images bien trop puissantes. Encore une et il vomirait.
« Perrine, »
dit Loyal,
« je te comprends. »
Il tapota l'épaule de son ami.
« Je sais comment je réagirais s'il risquait d'arriver malheur à Erit. »
Les poils des oreilles de l'ogier frémirent. En voilà un qui était bien placé pour parler. Lui qui aurait battu tous les records de vitesse pour échapper à sa mère et à l'épouse qu'elle lui avait choisie.
« Perrine, Fayle t'attend en parfaite santé. J'en suis sûr. Tu sais qu'elle est capable de prendre soin d'elle. D'elle, de toi, de moi et de Gaul s'il le fallait. »
L'ogier eut un rire qui sonnait faux. Puis il redevint grave.
Perrine, autant que tu le veuilles, tu ne peux pas être là en permanence pour protéger Fayle. Tu es un Taveren. La trame t'a tissé dans un but bien précis. Et elle t'utilisera comme elle l'a prévu.
Que la lumière brûle la trame ! Qu'elle brûle tout, si ça peut épargner ma femme !
Les oreilles de Loyal se pétrifièrent, et Gao lui-même sembla indigné.
Que suis-je devenu ?
Se demanda Perrine. Il méprisait les gens qui poursuivaient leur propre intérêt, se fichant de l'ultime bataille et du risque de voir le ténébreux étendre son ombre sur le monde. Mais en quoi était-il différent d'eux ?
« Tu viens ?»
demanda Rand en immobilisant son cheval noir près de Perrine.
« J'arrive, »
dit le jeune homme. Même s'il n'avait aucune réponse à ses propres questions, une certitude demeurait. Pour lui, Fail était le monde. Tout simplement.